puedo callar.
Et je me dis que quand même avec la complexité de ce que c'est que les apatistes, la complexité de ce que c'est que de devenir toute cette conquête inversée là dont on parle dans un contexte de pandémie mondiale, ce que ça représente de traverser par l'escadron qui traverse par la mer, ce que c'est que tous ces comités qui organisent, j'imagine que toute cette complexité est enfin autant matérielle que politique foisonnante, comment c'est possible d'en faire un ouvrage. Enfin, j'imagine qu'il y a un gros travail de synthèse, d'aller à l'essentiel, sans perdre non plus tout l'aspect, comme on disait, poétique, politique, tous les messages que les apatistes ont à véhiculer, mais aussi les comités ici en Europe. Ça a dû être un gros travail de vulgarisation, de pédagogie finalement.
Oui, c'est des questions qu'on s'est posées tout au long de la conception de l'ouvrage, c'est-à-dire les premiers épisodes ont été faits quand même assez spontanément, donc elles étaient moins présentes, ces questions. Vraiment l'idée de mettre en image ces communiqués apatistes qui sont très beaux et qui aussi, je pense, étaient inspirants pour Lisa dans le dessin. C'est-à-dire que ça ouvrait aussi un dessin, enfin un imaginaire dans le dessin assez riche, et faire connaître ses textes, voilà. Après, quand on a commencé à se dire on va faire un livre, livre qui est sorti chez Futuropolis, donc avec un vrai éditeur, et donc qui sera adressé à un tout public, quoi. C'est-à-dire on sort aussi des milieux peut-être plus militants de gauche qui connaissent un peu les apatistes, même s'il y a beaucoup d'autres comités qui se sont greffés dans l'accueil des apatistes, et on essaye de s'adresser un peu à tout le monde, quoi, et de partager cette histoire, cette expérience alternative, nos alternatives ici en France, enfin quelques-unes d'entre elles, hein, vraiment un petit nombre, et de les faire connaître. Donc là, effectivement, ça nous a obligés à faire des choix, puisque de toute façon le livre est déjà assez épais, comme tu le vois, et donc on pouvait pas tout raconter. On aurait pu chercher encore plus de textes, etc., mais il y avait une question quand même de temps, et puis on peut pas faire une BD de 500 pages, et donc on s'est limité, on a écrit les épisodes, on a beaucoup travaillé sur la manière de restituer ou de rendre compte de la parole apatiste, sachant que souvent ce sont leurs propres textes, et quand ce sont les collectifs européens qui les accueillent, bon, c'est surtout en France, hein, dans la BD, là c'est la parole des collectifs qui les accueillent, et parfois quelques propos apatistes, mais je veux dire on évite vraiment à tout prix de parler en leur nom, c'est pas l'objet de cette bande dessinée, sauf quand ce sont des textes qu'ils publient eux-mêmes, et de garder ce caractère dont on parlait tout à l'heure, très inspirant, très enthousiasmant de leur parole, et puis aussi de cette capacité qu'ils ont à faire naître des rencontres, à faire naître des choses qui sont quand même un peu dingues, quoi. Enfin, je veux dire, ce voyage de 100 personnes qui arrivent du Mexique, tous ces collectifs européens qui, difficilement parfois, mais quand même, dialoguent, organisent des arrivées, des départs, des circulations, des rencontres, des invitations. Enfin, c'était quand même un travail absolument gigantesque. Et donc, cette BD témoigne un petit peu de ça. Dans l'idée vraiment de se dire on a la capacité de faire ça, en fait. Là, c'est les apatistes qui nous donnent, comment dire, d'une certaine manière, le prétexte de le faire, mais voilà, les collectifs européens, parfois, ont la capacité de se mettre en branle et de créer ça.
Arauco tiene una pena más negra que su chamán. Un travail colossal qui a eu un retentissement assez fort, intense, dans un certain milieu, comme tu disais, dans les milieux de gauche, alors que effectivement il y a 30 ans, c'était peut-être plus répandu, ou en tout cas on regardait vers le Chiapas. Et pourtant, il y a eu très très peu de relais médiatiques là en 2021, quand il y a eu leur venue. Donc il y a comme un décalage entre ce que ça représente pour plein de gens, alors qu'en fait, au niveau des relais plus nationaux ou très locaux, c'est passé quasiment inaperçu.
Oui, c'est un grand paradoxe de ce voyage, mais qui s'explique pas complètement. On n'a pas toutes les réponses à ça, je pense. Mais que dire ? Les apatis sont arrivés à Paris, enfin l'escadron, en juillet. Bon, c'était pas la meilleure période. Les médias, les grands médias officiels, se sont pas passionnés pour ce voyage, même si, comme je le disais tout à l'heure, il y a eu des épisodes de la BD qui ont circulé quand même dans des grands médias. Il y a eu quelques articles, hein. Il n'y a pas rien eu, mais je veux dire, on peut pas dire qu'il y a eu un engouement médiatique autour de ça. Les médias alternatifs ont suivi un petit peu, pas excessivement, et je pense que c'est aussi dû au fait que l'arrivée des apatistes a été reportée un certain nombre de fois. Donc c'était aussi compliqué de d'annoncer à l'avance ce qui allait se passer et
Les dates ont fluctué, oui, les collectifs savaient pas, enfin c'était quand même un joyeux bazar quoi.
Oui qui n'était la faute de personne si ce n'est des administrations puisque c'était du côté du Mexique qui bloquait les départs. Donc bon, tout ça a créé un espèce de contexte où c'était difficile en fait de communiquer. Donc ça c'est une chose. D'autre part, les apatistes eux-mêmes ont vraiment annoncé, enfin demandé à ce qu'il y ait peu de grands événements publics. En gros, ils nous ont fait comprendre qu'il était plus important pour eux de rencontrer quelques personnes vraiment
de manière qualitative,
engagées dans des luttes et dans des formes de résistance. Ici que d'avoir des grands événements qui finalement peut-être auraient une visibilité mais ne déboucheraient sur rien de concret quoi. Ils présentaient aussi leur voyage comme un voyage de travail, donc ils venaient étudier aussi ce qu'on faisait, ce qu'on proposait ici en termes d'alternatives, ce qui fait qu'ils n'avaient pas envie d'être filmés, enfin ils demandaient à ne pas être filmés, donc d'où la difficulté de faire un film ou voilà, il y a des petites vidéos, hein, il y a des petites choses, mais bon, peu de choses, et ils n'appelaient pas forcément à ce que on organise des conférences des presse, qu'on fasse venir des médias pour les suivre. Donc la conjonction de ces deux choses a fait qu'effectivement il y a eu peu de traces en fait de ce voyage qui est un peu aussi un peu déceptif parce que les gens ont donné beaucoup d'énergie et en même temps ça a un sens, c'est-à-dire que on pensait même parfois, je pense qu'ils l'ont dit eux-mêmes, mais à la préparation de la révolution pour eux avant de se soulever en 94, c'est-à-dire aller voir les gens un par un, leur expliquer ce que c'est et puis les gagner à la cause et pas faire des annonces massives, mais c'est vrai que ça crée une difficulté. Alors nous on a pris acte de ça et puis on les a aussi accompagnés du mieux qu'on pouvait et ce qui s'est passé, je pense que c'est vraiment ces rencontres qui ont eu lieu sous cette forme-là. La BD constitue du coup une des seules traces archives sur une partie de ce voyage. Quoi.
Et c'est ça qui est un peu fou et intéressant et à la fois hyper inspirant, c'est que c'est complètement à contre-pied de la dynamique moderne actuelle de communiquer, surcommuniquer, recommuniquer, décommuniquer dans tous les sens, quoi. Les réseaux sociaux. Là, il y a une volonté qui est assumée. Et qui est ancré politiquement de ne pas surcommuniquer, et que du coup là aujourd'hui le travail que vous faites, c'est quand même faire archive, faire trace, et notamment auprès de tous les collectifs qui ont participé à ça. Alors du coup je me demandais, il y a eu un travail avec certains pour certains épisodes, mais comment est reçu maintenant ce travail qui commence tout juste à être diffusé, hein, mais au niveau des collectifs, au niveau des gens qui ont assisté à tous ces épisodes?
Écoute, ça commence tout doucement, puisque la BD est sortie fin janvier, d'ailleurs je l'ai pas dit, mais aussi en lien avec l'anniversaire des 30 ans du soulèvement zapatiste. Et depuis, Lisa et moi, Jérôme est bâché au Mexique, donc on s'est un peu réparti des rencontres. Finalement, pour l'instant, les rencontres qui ont eu lieu, ce sont plus des rencontres avec des publics qui ne connaissent pas les apatistes. Ce qui est, comme on le disait tout à l'heure, aussi une des vocations de la BD, de faire connaître les apatistes, de faire connaître ce voyage. Et donc, il y a vraiment des échanges aussi un peu pédagogiques sur ce que ça a apporté, etc. Sur les collectifs, il y a des collectifs comme celui des tanneries Lantillère à Dijon, dont il y a un épisode qui se sont procurés la BD, on leur a apporté, et donc j'imagine qu'il y aura des choses là-bas. On va faire une rencontre au Salon des Coloniales à Paris avec La Parole Errante et la librairie Michel Firque autour de la BD. Donc il y aura aussi des gens de la coordination, dont le comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte à Paris. À Marseille, petit à petit ça circule, mais il faut réveiller aussi en fait la liste de cette coordination nationale qui a tant travaillé, etc., et qui s'était mise un peu en sommeil. Donc là, on est en train de leur dire ce livre existe, en partie nourri des rencontres que vous avez organisées, et comment est-ce qu'on peut le faire circuler et restituer une petite partie de ce qu'on a vécu ensemble.
Et au niveau inspiration, ma question va être difficile, mais est-ce que toi, dans ce que tu as vécu, à la fois dans le travail dans ce travail avec Lisa et Jérôme, mais aussi dans ta vibration politique à toi-même, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont particulièrement touché ou je sais pas comment ça a ouvert encore des nouvelles fenêtres, comment ça a alimenté, puisque le but tout votre travail c'est ça, et tout leur travail c'est ça, c'est d'ouvrir des imaginaires dans le monde dans lequel on est. Est-ce que toi t'as réussi à prendre de l'inspiration, des rêves? C'est difficile, hein,
ma question. C'est difficile et c'est intéressant parce que le fait d'avoir participé aux coordinations d'accueil, d'avoir vécu ça, il y avait des choses extrêmement intenses émotionnellement, faire venir les apatistes, travailler aussi autour de ce que représentent les apatistes ici, soit rien, pour les gens qui connaissent pas, soit une espèce de mythe révolutionnaire,
c'est mythique,
les Indiens de la jungle, etc. Donc une vision aussi un peu idéalisée, folklorique ou romantique, quoi. Et donc une fois que les apatistes sont là et qu'ils partagent ce qu'ils ont à partager, enfin, ça crée du trouble, quoi. Donc, c'est intéressant de vivre ça, en fait. Moi, je suis allée au Mexique, j'ai vu les apatistes en étant l'étrangère, enfin, je veux dire, en allant les voir. Là, eux viennent. Comment est-ce que les gens les reçoivent ici? Est-ce qu'ils ont quelque chose à en tirer au sens, je veux dire, est-ce que ça les nourrit ou comme on pourrait se dire, est-ce que c'est trop loin pour eux? Est-ce que c'est une expérience qui ne connecte pas avec la nôtre? Et donc, toutes les expériences étaient différentes. Je pense que il y a des cas où ça a pu être peut-être juste une parole transmise et d'autres où, donc là, ça dépend aussi à quoi on a participé, mais je vais prendre peut-être un exemple autour des collectifs qui luttent contre les violences policières auxquelles j'étais liée à Paris. Fatou Dieng en particulier, voilà, on a raconté cet épisode de la fête des morts. Elle nous racontait que, enfin voilà, la distance est grande, mais qu'il y a beaucoup de choses qu'ils reconnaissent en fait, à la fois dans un racisme qui est subi par les populations autochtones et qui est subi ici par des migrants ou des descendants d'immigrés. Enfin, il y a des choses un peu en miroir et que aussi cet imaginaire, cette croyance, enfin cette autre vision de la mort, enfin cette tradition aussi maya que portent les apatistes. Il y a beaucoup de choses auxquelles elle et puis des gens du collectif ont été très sensibles, enfin qui se rencontraient, quoi. Donc c'est à dire que il y a eu des vraies rencontres qui ont eu lieu, et ce que aussi il faut en tirer, c'est que c'est une espèce de modestie, quoi. C'est-à-dire, ça n'a pas été un événement, ça n'a pas révolutionné l'Europe. Enfin, je veux dire, pas grand-chose n'a changé peut-être avec ce voyage. Et en même temps, ça fait partie de ces petites choses, ces petites pierres à un édifice peut-être qui nourrit nos envies de résister, de se dire. Mais alors eux, s'ils ont réussi à construire, pourquoi est-ce que nous, on n'y arriverait pas, même si c'est à une autre échelle, quoi. Donc ça, c'est toujours inspirant, je pense. Et puis le fait de, ouais, effectivement, de reparcourir tout ça en faisant la BD, ça nous a ramené à ces temps à la fois très enthousiasmants et puis sans évacuer dans nos mémoires le fait que ça s'est construit, enfin que c'est un vrai travail, en fait. Ce lien entre des résistances du monde, moi, ça me semble très important. Mais que ça se travaille, ça se nourrit, ça demande de l'implication et voilà, c'était une preuve de ça.
Oui, et puis il y a une époque où aujourd'hui, malgré l'aspect plus mondial, finalement les luttes étaient plus internationalistes avant, et que là c'est aussi réactiver des choses ou sur être relié finalement au niveau international contre une montée de fascisme aussi international.
Oui, c'est sûr. Et je voulais ajouter, parce que je l'ai pas dit alors que c'est assez important, il me semble, c'est que il y a aussi la question féministe que portent les apatistes. Et d'ailleurs, les délégations telles qu'elles étaient annoncées au début étaient largement constituées de femmes. Ça devait vraiment être un voyage de femmes apatistes essentiellement. Ça n'a pas pu se faire pour ça, mais plus pour des raisons liées à la difficulté des femmes apatistes de quitter leur territoire au Mexique et de voyager. Mais en tout cas, elles en faisaient partie. Et ça rappelait aussi que dès le soulèvement, avant même le soulèvement, il y a eu une loi révolutionnaire des femmes qui a été écrite par des femmes qui donc intégraient et faisaient partie de ce mouvement révolutionnaire des femmes indigènes. Et qu'elles ont, il y avait 10 points dès 1993 auxquels se sont rajoutés 2 autres points par la suite, qu'elles ont initié des rencontres, qu'elles sont une voix aussi du féminisme mondial qui est extrêmement importante et qui est très, singulière. Et de ce point de vue-là, les apatistes sont quand même un peu à l'avant-garde, parce qu'un mouvement de guérilla sud-américain ou centra-américain n'accorde pas en général une place importante aux femmes. Enfin, il me semble, hein, je suis pas spécialiste du tout, mais et là, cette voie-là a été portée en avant. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème pour les femmes apatistes, mais ce qui veut dire que c'est un vrai enjeu. Et je pense que ça, c'est aussi, on l'a vu aux rencontres féministes et avec les personnes trans et non-binaires à la ZAD. Voilà, il y avait vraiment beaucoup de discussions autour de ça. Les féminismes ne s'accordent pas sur tout, loin de là. Mais ça, pour le coup, c'était aussi très, très stimulant, quoi, de cette place que les femmes prennent dans les mouvements de résistance ou dans les mouvements révolutionnaires.
Et oui, c'est cette avant-garde dont on a besoin, en fait, quels que soient les sujets, mais sur celui-là aussi en Europe. J'ai l'impression qu'on pourrait parler des heures, tellement c'est passionnant. Mais donc vous, avec cette BD, votre travail, c'est de finalement faire archive, vous constituer en passeur et passeuse de cette histoire, pour peut-être créer des déclics. Enfin, on sait bien que dans nos parcours d'engagement, peut-être il y a des moments qui font des clics. Alors peut-être et des lectures et des rencontres. Donc on espère que peut-être que cette BD pourra faire ça. Et peut-être on peut juste revenir avant de se quitter sur la question de ce cycle de rencontres des imaginaires engagés et enragés, dont Terre Rebelle, la présentation de votre travail avec Lisa et Jérôme et toi, Métis, ça aura lieu le 20 avril. Donc c'est un peu le lancement de ce cycle. Comment ça va se passer? Est-ce que tu peux en dire quelques mots?
Oui, bien sûr. Il se trouve qu'on a déjà préparé un peu cette journée. Alors Jérôme ne sera pas présent. Je pense pas qu'il sera en France déjà à ce moment-là. Donc c'est Lisa Lugrin, donc dessinatrice et autrice de la BD, qui va venir de Marseille, et on a prévu donc une sorte de demi-journée avec 2 heures d'atelier à partir de 16h. Ce sera à Active Royan, à Saint-Jean-Royan, autour de l'écriture de slogans poético-politiques et gravures sur Tetra Pak. Donc voilà, une partie écriture et une partie fabrication manuelle, à la suite de quoi on aura un moment de apéro partagé, repas partagé, et une lecture d'un des communiqués, celui de la montagne en haute mer, une lecture collective. C'est vraiment un texte très beau et qui est très agréable à partager, même avec des gens qui ne connaissent pas, c'est une très bonne entrée. Et puis une discussion autour de la BD, autour des apatistes et de ce voyage.
Et qu'est-ce que vous attendez un peu de cet événement ici sur le territoire? Qu'est-ce que vous avez envie qu'il y ait comme écho chez nous?
C'est une première, et puis moi c'est vrai que je suis encore jeune sur ce territoire, mais là c'est un peu aussi dans l'optique de se dire on aimerait bien que ça s'adresse à tout le monde. C'est-à-dire il y a la partie atelier qui est vraiment ouverte, même pourquoi pas des familles à des enfants, que ce texte aussi puisse être l'occasion de rencontrer des gens qui sont pas forcément dans des cercles militants, mais que voilà, que la BD intéresse, puisque la BD c'est quand même aussi un vecteur assez populaire, quoi, assez démocratique, et voilà, d'avoir envie de découvrir les apatistes et ce qu'on peut tirer comme réflexion ensemble de ce genre d'expérience à travers ces rencontres qui ont eu lieu. Et j'imagine aussi et j'espère qu'il y aura des personnes de la coordination de la région qui pourront venir. Moi j'en connais quelques-unes à Grenoble, Ardèche, etc.
Dans la vallée de la Drôme, à Cré, à Saillant, où il y a eu des rencontres aussi.
Oui, voilà, qui pourront aussi faire part de ce qu'ont été ces rencontres pour eux, puisque ce sont des épisodes qui ne sont pas forcément restitués dans la BD. Et voilà, à partir de là, avoir envie de continuer à réfléchir de manière aussi conviviale, c'est un peu... d'apprécier le fait d'être ensemble, avoir ces discussions politiques sans que ce soit des moments pesants ou seulement universitaires, par exemple.
Oui, ou juste politicienne. Enfin, oui, c'est-à-dire qu'on a besoin, et c'est peut-être le lien avec le territoire Royan-Vercors, où des initiatives naissent, des collectifs s'organisent. Il y a des volontés de se saisir des sujets politiques, mais d'une manière qui soit pas forcément politicienne aussi. Mais pas que. Et que, encore une fois, si on revient à ce qu'on se disait au début de cet échange, c'est qu'on a besoin d'imaginaire, on a besoin d'avoir de la force, quoi, de l'envie de continuer à vivre, quoi, dans le monde dans lequel on est, et de créer des choses avec d'autres. Et effectivement, ça va passer par le lien, par l'échange. Et on n'en a pas parlé, mais effectivement, la BD, enfin, tu viens de le dire, c'est un média populaire. Vous auriez pu choisir de faire un gros livre de 500 pages. Ça n'a pas été votre choix. Aussi parce que tu disais, il y a une rencontre avec Lisa qui est autrice de BD. Mais le choix que ce soit une BD, ça, effectivement, ça va peut-être permettre ça.
Oui, c'est vrai. J'écris donc plutôt du théâtre, mais c'est pas mon monde au départ, la BD. Mais il faut reconnaître que voilà, c'est un moyen aussi d'accéder à un public beaucoup plus large. Et en plus, c'est pas non plus dire ça, c'est pas non plus dire qu'on baisse les exigences. Je pense que le livre est quand même pour le coup, on fait un vrai travail de, d'expliquer ce que sont les apatistes. Le dessin est très beau, il se déploie. Enfin, le scénario, je pense, est assez homogène et cohérent. Donc, on a essayé, voilà, de concilier différentes choses pour que ce soit un livre à la fois beau et intéressant à lire, quoi, et que et nourrissant. Et après, dans le dans ce cycle qu'on inaugure là un peu avec cet événement, oui, il y aura donc l'idée d'avoir des rendez-vous de nature différente, donc peut-être autour d'autres livres, peut-être des arpentages, peut-être des festivals, un petit festival plus nourri avec d'autres formes d'ateliers. Enfin, voilà, que ce soit vraiment différentes entrées autour de cette question de nourrir nos imaginaires.
L'arpentage, pour ceux et celles qui ne le savent pas, c'est une technique d'éducation populaire, de partage collectif autour d'un livre, c'est-à-dire on lit collectivement avec une technique assez précise, mais qui permet de faire fi de cette impression qu'on a des fois où les livres sont assez impressionnants et que du coup là, c'est une technique qui vient des luttes ouvrières, hein, de pouvoir accéder à de la culture et de la connaissance. Et oui, la question de la BD, c'est un média et c'est un art effectivement populaire, mais il n'a de populaire, c'est pas méprisant ou c'est pas comment dire un sous-art, quoi. Et au contraire, moi je trouve que vulgariser des choses, se rendre accessible comme ce travail de passeur ou de passeuse, bah c'est important, sinon on cultive que l'entre-soi finalement.
Oui, tout à fait.
Donc on a hâte, c'est le 20 avril dans les locaux d'Active Royan à partir de 16h, une communication plus précise sortira prochainement. En tout cas, merci beaucoup Métis d'être venu nous en parler ce matin.
Merci beaucoup pour l'invitation.
Et puis on suivra bien sûr les prochains événements de ce cycle de rencontres imaginaires engagées et enragées.